en ouvrant cette séance, je voudrais vous présenter, comme nous le faisons à chaque fois, un nouveau collaborateur de la mairie qui est ici présent avec, avec sa chef de service. Et il s'agit de M. Dimitri Bournonville. Alors, Dimitri Bournonville a pris ses fonctions début mars. Il vient de la mairie du passage d'Agem et il va expliquer son parcours. Et M. Bournonville est le directeur de l'accueil de loisirs de Jean Moulin et avec la perspective de diriger, de coordonner les accueils de loisirs. Monsieur Bournonville, nous l'avons recruté sur un poste qui, à l'origine, était un contrat d'avenir, vous vous en souvenez sans doute, et la dame qui était sur ce contrat d'avenir s'est réorientée professionnellement et donc a quitté ce poste. Et nous, il nous a fallu, compte tenu des effectifs, je pense, scolaires, etc., il nous fallait un agent ayant des qualifications, et ces qualifications, M. Bournonville les a. Voilà, donc je voulais, chers collègues, vous le présenter ou lui permettre de se présenter, M. Bournonville, et lui dire devant vous que, comme j'ai eu l'occasion de lui dire, que nous le recrutons dans cette mairie avec grand plaisir, que nous attendons évidemment beaucoup de lui, que je crois il a les qualifications et les compétences pour ça, et voilà, et que nous lui souhaitons bien entendu la bienvenue à Boué dans les services de la mairie et dans un secteur qui est important. Tout est important, mais tout ce qui touche à l'enfance et à la scolarité de nos enfants est évidemment très important. Donc voilà, M. Bournonville, vous vous présentez un petit peu ?
Oui, bonjour à tous, déjà, bonsoir. Voilà, donc Dimitri Bournonville, voilà, je suis au sorti de Saint-Antenne, je suis venu pour rejoindre ici, dans le sud-ouest. Voilà, donc quand je suis arrivé dans la région, mes diplômes belges n'étant pas reconnus, voilà, j'ai dû me réorienter. Voilà, j'étais éducateur spécialisé en Belgique.
Très bien, ben écoutez, merci d'être venu vous présenter. Je crois que c'est important de pouvoir mettre un nom sur un visage et réciproquement. Voilà, vous avez ici un certain nombre de collègues élus avec lesquels vous aurez l'occasion d'être plus souvent en relation. Mais voilà, donc on compte sur vous, on compte sur vous comme sur vos collègues et notamment ceux du service que dirige Mme Vanoni. Voilà, encore une fois, l'enfance, les élèves, les écoles, le périscolaire, tout ça, c'est vraiment dans les compétences majeures des collectivités, d'une façon générale, des communes en particulier, et particulièrement ici à Boué, c'est clairement une de nos priorités. Donc voilà, nous comptons sur vous, et merci encore d'être venu.
Je fais
ça bien. Bon. Bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Bourgmestre. Bien. Alors, mes chers collègues, on va commencer. Il y a un certain nombre de pouvoirs. Françoise Lebeau, qui poursuit ses vacances, a donné pouvoir à votre serviteur. Aline Truyer a donné pouvoir à Colette Lassort. Jean-Michel Lapointe a donné pouvoir à Daniel Lunardi. Odile Favard a donné pouvoir à Annie Akari. Monique Fornazari, du coup je regarde là, on a le quorum, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Monique Fornazari a donné pouvoir à Michel Journet-Lérisson. Séverine Robin a donné pouvoir à Daniel Pantex. Et Jérôme Roux a donné pouvoir à Henri Jacquin. Et Brigitte Bonfanti a donné pouvoir à Chantal Ramon. Voilà. C'est bon, on n'oublie personne. Hein, je crois que tout le monde est là. Très bien. Alors, quelques propos en introduction pour vous rappeler que dans 15 jours, il y a des élections. Ça ne vous a pas échappé, des élections présidentielles. J'espère que vous avez pu répondre dans la mesure de vos disponibilités aux sollicitations de Françoise et des services pour qu'on puisse couvrir les besoins en bureau de poste, électoraux. Voilà, mais n'hésitez pas, si certaines ne s'étaient pas inscrites et souhaitaient le faire, il est encore possible, je suppose, Bruno et Muriel, de se rajouter. Voilà pour les élections. Alors, quelques petites informations rapides. D'abord, pour vous dire que les travaux de la digue de Boé, qui sont passés par différentes phases, ça devait se réaliser en début d'année 2017. Auparavant, on avait parlé de 2016, et puis tout ça a été retardé, était conditionné par l'obtention de subventions. Bref, il y a eu beaucoup d'avatars, beaucoup de vicissitudes. Et puis, on en arrive aujourd'hui à une décision qui est prise officiellement par l'agglomération, dont les travaux de digue se feront. Alors, on parle de l'automne 2017. Voilà, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. L'été va se passer comme ça. Les marchés gourmands vont se dérouler sans difficulté. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler et on refera une réunion publique à l'attention des habitants, notamment de Boé Village, pour expliquer, réexpliquer et en tout cas donner connaissance de la dernière mouture des travaux. Après, je voulais vous dire, toujours dans les travaux qui sont en perspective assez immédiate, que je crois la semaine prochaine, je crois sous le contrôle de Daniel Lunardi, les travaux de réfection de la rue de la Couronne entre Macaïran et le marché Gare, c'est la semaine prochaine. Hein, que c'est démarré ?
Non,
ça sera barré. Voilà.
18.
Ça sera barré le 18. Une réunion a été tenue avec les riverains pour expliquer tout ça. Ce sont des travaux que mène l'agglo, vous le savez, mais concomitamment, on mène, nous, mairie, les travaux de réalisation de la piste cyclable qui va avec. Bref, c'est une belle réalisation. Je vous rappelle que l'agglomération mène aussi des travaux, conduit des travaux aujourd'hui dans la zone industrielle de Boé, bon, qui ont pris un peu plus de temps que ce qui était prévu, me semble-t-il, initialement, mais enfin, ça se poursuit, tout ça va très bien. Vous dire ensuite que, s'agissant de Marot, c'est un très gros dossier, Marot. Marot, c'est tout le secteur, je le rappelle, qui est à l'arrière du marché aux bestiaux, il y a périmètre là d'une soixantaine d'hectares ou une cinquantaine d'hectares. Au départ, il y avait un projet très ambitieux, je vous parle d'il y a quelques années, puis là-dessus sont arrivées toutes les contraintes relatives à l'aléa inondation. Et la dernière configuration, c'est que l'État considère ce secteur comme un champ d'expansion des crues. Et quand on a appris ça il y a un peu plus d'un an, un an et demi, je me souviens d'une réunion en préfecture, on n'avait jamais imaginé que l'État nous opposerait cet argument de dire que c'est un champ d'expansion des crues. Champ d'expansion des crues, on l'imagine ici, dans la plaine, quoi, plus difficilement de l'autre côté de la Rocade, en continuité de la zone urbaine, d'Agen, de la Couronne, etc. Bon. Bref, en tout cas, ils considèrent ça comme champ d'expansion des crues, et par conséquent, par principe, cette zone est inconstructible. Alors, néanmoins, il y a eu des réunions publiques ici, certains d'entre vous y ont participé, sans doute, et vous avez entendu le directeur départemental des territoires expliquer tout ça. Bon. Donc, a priori inconstructible, sauf dérogation possible, à la condition que nous puissions d'abord présenter un projet d'ensemble et que nous puissions apporter la preuve que ce qui serait réalisé là serait, d'abord, se situe à des hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre, etc., bien entendu, c'est la première des conditions, mais après, qu'on puisse démontrer que, en cas d'inondation, ces constructions nouvelles n'auraient pas d'impact préjudiciable aux maisons existantes. Voilà. Donc tout ça a nécessité des études hydrauliques menées par la commune, qui ont un coût, je vous l'indique, hein, on vous dira le coût quand même de ces opérations, on peut le donner si vous l'avez en tête, Bruno, là quand même.
Entre 20 et 25 000 euros.
À chaque fois.
Ah non, en tout.
En tout.
Pour ces études hydrauliques, juste.
Ah, je pensais plus. Je pensais plus, vous voyez, c'est déjà pas mal, c'est sûr, 25 000 euros, c'est pas rien, mais je pensais plus parce que des versions successives de cette étude hydraulique menée par un cabinet, il y en a eu trois, il y en a eu trois ou quatre, quoi, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on allait voir la direction de l'équipement, la direction des territoires, présenter le projet, et puis trouver, donc l'étude hydraulique, elle mesure par des modèles mathématiques, par des simulations, etc., elle dit, voilà, si vous construisez les maisons telles que vous les avez prévues, dans cette orientation, etc., ça va avoir pour conséquence que ça va relever en cas d'inondation le niveau des eaux de 5 cm, 6 cm, 8 cm, 4 cm, etc., etc. Bien. Et les premières versions, l'État considérait qu'avec 5 cm, 6 cm, ce n'était pas acceptable, qu'il fallait descendre en dessous de 5, vous vous rendez compte, hein, là on est là sur 5 cm, vous voyez un peu le truc. C'est fou. Et il y a 10 jours, 15 jours, on est allé présenter une version qu'on espérait bien définitive là-dessus. Et je reste prudent parce que tout ça demande la validation de Madame le Préfet. Mais normalement, le projet qu'on a présenté sera accepté tel qu'il a été orienté de façon que l'écoulement des eaux se fasse, etc., etc. Voilà, donc on a un projet aujourd'hui, et sous réserve encore une fois hein, de validation officielle et de prise en compte dans le PPRI, parce que c'est ça là, hein, c'est le plan de prévention contre les risques d'inondation qui nous oppose ces contraintes de constructibilité. Donc on est aujourd'hui sur un projet qui peut se situer dans le temps jusqu'à environ 350 logements hein, sur ce site, sur environ une quinzaine d'hectares ou 17, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça. Pas ailleurs parce que l'État ne veut pas, hein, c'est concentré voilà, sur une partie. Ça représente en gros un projet de 350 logements et ça pourrait donc se réaliser enfin, à la condition après, de pouvoir retravailler avec les opérateurs, les aménageurs avec qui nous avions pris des contacts, ou avec d'autres, hein, mais bon, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Je pense qu'il y aura des aménageurs intéressés pour ça. Évidemment, c'est une opération qui prendra du temps. Deux ou trois autres choses en termes d'information. La rue de l'école, vous l'avez vu, est bien avancée, la première tranche. On fera une inauguration que je vous proposerai de tenir peut-être au mois de juin. Il faudra qu'on se mette d'accord sur une date, un soir, pour faire, je crois que ça le mérite, une inauguration de cette rue de l'école. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, je voulais vous dire un mot aussi des rencontres régulières que j'ai avec le personnel de la mairie. Après l'épisode, vous le savez, de la pétition, tout ça, c'était un autre dernier conseil municipal, ça, ou c'était le précédent, je ne sais plus. Personnel était celui d'avant, bon, bref. Personnel était venu, tout ça, puisqu'il n'était pas d'accord avec ce que nous avions voté concernant le dispositif anti-absentéisme, en quelque sorte. Bon, on s'est vu rapidement, je leur ai dit ce que je pensais de la méthode et tout, et on s'est mis au travail. Où en sommes-nous aujourd'hui? J'avais dit au personnel qu'on mettrait tout à plat, c'est-à-dire tout le régime à la fois concernant le temps de travail, concernant l'organisation de la semaine de travail, concernant les mesures sociales prises par la mairie, etc. On met tout à plat, on rediscute de tout et on discute bien entendu de ce qui a fait problème, c'est-à-dire du caractère aux yeux de certains agents, d'une partie des agents de la commune, de ce qui leur paraissait excessif en termes de retenue pour absentéisme, tout ça. Ce que je peux comprendre, mais c'était la méthode que je n'avais pas du tout aimée, parce que bon, le personnel s'est aperçu après coup que ça pouvait être pénalisant. Nous-mêmes, on n'a sans doute pas mesuré, moi en tout cas, le premier, parce que je me suis mis après à faire des simulations. Et en effet, j'ai vu que notre dispositif, il pouvait être, dans certaines conditions, pénalisant. Mais ça, on pouvait en discuter sans faire un truc un peu spectaculaire. Là. Bon. Bref, on met ça sur la table, on en discute, on peut arranger ça, mais on met le reste à plat aussi. Et donc aujourd'hui, les sujets de discussion, je vous les résume, et puis bien entendu qu'on sera amené à en reparler le moment venu. Si par exemple les représentants des personnels sont d'accord pour qu'on signe un protocole d'accord sur un certain nombre de questions, moi je reviendrai vers vous à ce moment-là pour que vous m'autorisiez à le signer ou pas, ce protocole d'accord. Donc on aura l'occasion d'en parler. Je ne suis pas sûr que les représentants du personnel soient sur cette optique. Je leur ai fait cette proposition, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent signer un protocole d'accord dans lequel ils s'engageraient, etc. Bon, ceci étant, sur un certain nombre de points, moi je peux faire délibérer le conseil municipal, à la fois pour réviser ce qui faisait problème et puis sur d'autres sujets. Alors les sujets qui sont évoqués aujourd'hui, quels sont-ils ? Donc, c'est de revoir notre système de retenue sur le régime indemnitaire en cas de jours d'absence répétés, on va dire. Bon, je ne rentre pas dans le détail, donc tout ça peut être revu. Et on discute aujourd'hui sur le fait que la retenue qui se ferait en cumulant les jours pris au cours de l'année écoulée, mais la retenue, elle pourrait ne s'appliquer que sur les mois d'absence des agents et pas tous les mois. Voilà, notre premier dispositif, c'était tous les mois et ça peut être excessivement pénalisant, par exemple pour des personnels qui, pour des raisons légitimes d'absence médicale, etc. Voilà. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le temps de travail. Le temps de travail, aujourd'hui, les personnels ne remplissent pas complètement l'obligation légale de 1607 heures et je leur ai dit qu'on irait à 1607 heures, c'est-à-dire à l'obligation légale. Le temps de travail, vous savez, aujourd'hui, il est annuel, quoi. La fonction publique, on doit 1607 heures. Et donc voilà, donc on va là-dessus et pour moi, ce n'est pas négociable, ça. On va faire les choses comme ça. Troisième point, l'organisation hebdomadaire du temps de travail. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous le dire, je crois, dans 80 ou 90% des services, le service s'accomplit sur 4 jours et demi. Le temps de travail hebdomadaire, pour un temps complet, se fait en 4 jours et demi. Bien. Ça veut dire que les gens font un peu plus tous les jours, mais qu'ils ont une demi-journée dont ils peuvent bénéficier en général soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi. À l'expérience, ça pose problème, dans certains cas, pour la continuité du service. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on doit assurer cette continuité des services. Ça pose problème pendant les périodes de vacances. Voilà. Pendant les périodes de vacances, vous avez la moitié du personnel, en gros, qui est absent parce qu'il prend ses vacances, et vous avez une autre moitié qui reste. Si cette autre moitié ne travaille sur 4 jours et demi, pour le coup, il y a des demi-journées, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, où c'est coton. Donc ma demande, c'est que pendant les périodes de congés scolaires et dans des périodes où il y aurait des absences nombreuses dans un service, on applique un emploi du temps, non pas sur 4 jours et demi, mais sur 5 jours. Voilà. Et le reste du temps, dans la mesure du possible, on reste sur 4 jours et demi. Mais ça paraît important. Ensuite, il y a un point qui est une prime dite 13e mois. Bon, c'est quelque chose qui existait avant les lois de 1984, avant la décentralisation, etc. Moi, je souhaite que cette prime, qui est la même pour tous les agents, c'est une prime de 1250 euros pour chaque agent de la mairie. Voilà, moi je souhaiterais qu'on y applique, qu'elle soit considérée comme étant ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est du régime indemnitaire, ça, c'est pas une rémunération principale, c'est un truc qui était acquis avant et tout, mais moi je souhaiterais qu'on l'intègre dans le régime indemnitaire et qu'on y applique tout ce qu'on applique au régime indemnitaire et notamment le dispositif dissuasif contre l'absentéisme. Voilà, donc ça se discute. Et puis il y a ensuite le préavis de grève. J'ai eu l'occasion là aussi de vous dire que dans les communes de moins de 10 000 habitants, il n'y a pas de préavis de grève. Ça veut dire qu'une grève peut être déclenchée là ce soir pour demain matin, ce qui me paraît totalement anormal. Il y a des mesures de sécurité à prendre, d'information des familles, par exemple, pour la cantine, pour ceci, pour cela. Et je pense que les agents qui, d'ailleurs, ont dit que chaque fois que le problème s'était posé, ils donnaient l'information. Mais moi, je souhaite qu'on s'engage là-dessus, que les personnels s'engagent à ce qu'au moins 48 heures, disons, que l'information soit donnée, qu'il va y avoir une grève, qu'on puisse prendre, encore une fois, les mesures de sécurité et de continuité minimale du service dans ce cas. On en est là aujourd'hui, donc on continue. Demain matin, je les revois et on continue. Et puis une dernière chose, et pardon si je suis un peu long en introduction, mais c'est l'occasion aussi d'échanger un peu quand même sur l'actualité. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être vu dans la presse de vendredi ou samedi, je ne sais plus, que j'étais intervenu au dernier conseil de communauté où nous étions avec Daniel Pentex. En début de réunion, il n'était pas encore arrivé, mais je suis intervenu sur Haut-Green, sur le sujet de la Motte-Magnac et Haut-Green. Alors, je veux vous dire un petit peu quel était le sens de mon intervention et de quoi il s'agit. Bon. Il y a un litige aujourd'hui entre l'agglomération et notamment entre le président de l'agglomération et les aménageurs Haut-Green, c'est-à-dire le groupe Frege IFI qui sont les promoteurs de la zone. Il y a un litige, vous le savez, qui porte sur cette question du commerce de l'habillement et des biens culturels qui sont fléchés centre-ville d'Agen. Et voilà, le principe, c'est ça. C'est de dire qu'il faut privilégier, autant que faire se peut, ce commerce vers le centre-ville. Et dans l'acte de vente des terrains de l'agglo aux promoteurs, en 2012, il y avait un engagement, en effet, signé par les promoteurs, de ne pas... Et là, je ne rentre pas dans les subtilités juridiques parce qu'après, c'est justement l'action judiciaire qui permettra de juger un peu tout ça, de ce qu'étaient les engagements pris par les uns, par les autres. Mais en gros, figurait dans l'acte de vente l'obligation pour les promoteurs de ne pas installer de commerce, habillement ou bien culturel en première commercialisation, et ceci pendant une période de 3 ans. En gros, c'est ça. Mais tout ça est discuté après. Voilà. Bon. C'est ça l'engagement. Sur cette base-là, se sont installées les enseignes CA et l'enseigne Tati, et l'aglo a fait un recours contre ces enseignes qui, à leur tour, ces enseignes vont se tourner ou se tournent contre les aménageurs, puisqu'elles, elles sont... Voilà, on leur a loué des trucs, elles s'installent, elles ne se sentent pas responsables d'un quelconque engagement là-dessus. Mais voilà, il y a eu ces recours. Bon, soit ces recours, ils seront jugés, le tribunal de commerce qui, une première fois, a donné raison à l'aglo concernant le CEA, il y a un appel, nanana, machin, ça va se continuer. Pourquoi pas? Mais j'apprends la semaine dernière... Etam qui est dans la même situation, voilà, qui veut s'ouvrir. Bon, voilà, il y a d'autres choses. Et là, encore une fois, il y a cette règle des 3 ans, normalement, voilà pour juger, moi, mais cette règle des 3 ans, et on a dépassé les 3 ans. Donc aujourd'hui, ça ouvre des perspectives, en tout cas pour les aménageurs. Mais j'apprends la semaine dernière que le président de l'agglo a assigné les promoteurs devant le tribunal de grande instance d'Agen pour résolution de la vente. Ça veut dire que l'agglo demande que le tribunal déclare nulle la vente intervenue en 2012, la vente des terrains, et l'agglo se propose donc de racheter les terrains. Vous imaginez, comme si c'était possible, ça a été construit dessus. Bon, bref, il y a une action en tout cas qui est engagée, qui monte d'un cran. Mais tout ça, alors mon intervention, c'était quoi? C'était de dire au président, tu as fait cette action sans doute en vertu de ta délégation de président de l'agglo, mais sur un sujet quand même aussi sensible, je pense qu'il aurait été utile que tu aies l'assentiment du bureau de l'agglo ou du conseil de l'agglo, que tu en parles un peu, parce que ça, c'est quand même des questions importantes qui sont derrière ça. La nullité de la vente, imaginez les conséquences. Si le tribunal avait la mauvaise idée quoi, de déclarer nul le truc, qu'est-ce qui se passe? On est dans une situation qui serait ubuesque, en effet, ce qui aurait des conséquences financières pour l'agglo qui devrait débourser 10 millions d'euros d'un coup pour acheter les terrains, avec pour revendre après, dans quelles conditions, etc., etc. Bien. Ça, c'est une question. Et à quoi, ce à quoi Jean Dionis m'a répondu que c'était une pression qui était exercée, que ce qui était important, c'était que CA et Tati partent et qu'il fallait... Bon, mais on aurait pu en discuter avant. Et puis après, il y a la question de fond, et qui mérite débat, franchement. Non seulement débat à l'agglomération, mais débat partout et débat public d'une certaine façon. J'ai dit au président, je lui ai dit, là tu es entré dans une logique jusqu'au boutiste qui signifie quoi? Qui signifie que demain, si on te suivait, on ne pourrait pas installer de commerce de l'habillement ou des biens culturels ailleurs qu'en centre-ville d'Agen. Ça veut dire que sur toute l'agglomération, dans aucune des communes, on ne pourrait mettre un commerce de chaussures ou d'habillement. Ça mérite quand même débat. Mais il est sur cette logique. Donc c'était le sens de mon intervention, c'est tout. Bref. Voilà, les amis, écoutez, moi je vous propose qu'à l'occasion, on ne va pas ouvrir de débat là-dessus, mais on peut en discuter, et peut-être qu'il sera intéressant qu'entre nous, on échange là-dessus, qu'on sache un peu la position des uns et des autres. Encore une fois, dire qu'il faut soutenir le centre-ville d'Agen, moi j'y adhère tout à fait. Dire que, en effet, l'habillement et le bien culturel, encore que les biens culturels, franchement, qu'il n'y ait pas de concurrent au seul commerce de centre-ville, je crois que les Agenais, au sens large, le comprennent de moins en moins. Moins en moins, quoi. C'est quand même un problème. Hein. Et quant à l'habillement, il faut trouver un juste équilibre. Et quant à la préservation du centre-ville et à l'animation du centre-ville, il y a sans doute d'autres secteurs et vecteurs à actionner que le commerce de l'habillement. D'ailleurs, je reconnais, c'est mon point de vue, hein, je pense que la municipalité agenaise fait des choses justement pour préserver le centre-ville, mais le salut du centre-ville, il n'est pas que dans le commerce de l'habillement, quoi, et des biens culturels, hein, il est ailleurs, dans l'animation, dans la propreté, dans plein de choses. Bon. Bien, les amis, dernière chose, et puis on passe à l'ordre du jour, pour vous dire que demain matin, en fin de matinée, avec Jean-Claude Giraud, nos collègues de la commission des finances, avec Bruno Martin, Muriel Grégoire et les collaboratrices qui sont en charge des finances ici à l'agglo. Nous recevons le directeur départemental des finances publiques pour un moment important que je veux quand même souligner. La direction départementale des finances publiques vient signer avec la commune de Boé et c'est la première collectivité qui est invitée à ça, vient signer une convention qui va établir un contrôle allégé, un contrôle de partenariat entre la direction des finances publiques et la commune de Boé, un dispositif de contrôle allégé de nos procédures et de nos pratiques, de relation entre l'ordonnateur et le comptable. Pourquoi ça? Parce que la commune de Beauvais est la commune qui fait l'objet du taux de rejet de nos opérations le plus faible. Vous savez qu'on est, quand on signe des mandats, par délégation, c'est Jean-Claude Giraud qui le fait, quand on signe des mandats de paiement ou des titres de recettes, des choses comme ça, ça va chez le trésorier municipal qui s'assure qu'on a bien imputé la dépense sur la bonne ligne, qui s'assure qu'il y a bien les crédits nécessaires sur ces lignes pour payer, que la facture est bien jointe, que ceci, que cela. Bon, il y a des opérations de contrôle, évidemment, avant la mise en paiement effective. Et toutes ces opérations, et évidemment, ça prend du temps, ça peut retarder le paiement de fournisseurs, etc. Et s'agissant de Beauvais, on a sans doute des rejets, comme toutes les communes, de temps en temps, il peut y avoir des erreurs d'imputation, etc., mais ce nombre est particulièrement faible, de telle façon que la direction des finances publiques décide d'appliquer un dispositif allégé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de contrôle a priori, la mise en paiement interviendra, et il y aura a posteriori, par sondage, par échantillon, un contrôle qui sera fait quand même sur un certain nombre de pourvoirs, si ça ne dérape pas, etc., etc. Bien, c'est quoi ? C'est une reconnaissance, c'est une marque de confiance. Donc, je voulais le dire que c'est important parce que c'est un témoignage de la qualité, en tout cas, du travail, des procédures qui sont mises en place ici et du travail qui est accompli. Donc, je veux le vous le dire, saluer notre collègue Jean-Claude, même s'il n'est pas au cœur de la mise en place de tout ça, en tout cas, il signe, mais je veux dire à Bruno, dire à Muriel, celle qui s'en charge directement, dire à nos collègues un grand merci pour ça, pour cette qualité de travail. Et puis il faut continuer, quoi, bien entendu. Ça serait moche que l'an prochain, une convention qui nous retire ce contrôle allégé. Hein, c'est pas. Bon. Voilà. Non, mais franchement, on pourrait être fier de ça.
Pour 3 ans,
la convention bon. Très bien. Voilà, les amis. Bien. Est-ce qu'on devait adopter le compte rendu précédent? Je ne sais pas si vous avez remarqué des choses dans le compte rendu. Le compte rendu, il est ce qui est mis sur le site et autres. Hein. Pas de remarques là-dessus.